je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'actualité des luttes. Du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et également sur Internet. Cette émission sera également rediffusée dans la nuit de lundi à mardi entre 6h30 et 7h30. Donc aujourd'hui nous serons avec deux camarades du travail social, donc Laura et Joe, qui vont nous parler du travail social et aussi de la mobilisation qu'il y a autour cette semaine, sachant que notamment demain il y a une manif du secteur de ce secteur du travail social. On en reparlera plus tard, mais ce sera à 13h devant le Chambertin au 38 boulevard de Bercy. Donc tout d'abord, Laura ou Joe, c'est quoi le travail social? Qu'est-ce que regroupe ce terme?
C'est sûr que c'est assez large. Hein, ça va de la protection de l'enfance à l'accompagnement des personnes handicapées.
Je pense que si on pouvait décrire le travail social en quelques mots, je dirais que nous, en tant que travailleurs sociaux dans le social et médico-social, on intervient auprès de l'ensemble de la population, de la naissance jusqu'à la mort, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des enfants placés, des familles en difficulté, des personnes à la rue, et qu'en réalité, l'ensemble de la société est amené à un moment ou un autre ou risque d'être accompagné par le secteur social. Et si je pouvais préciser aussi un petit versant un peu plus lutte des classes, justement, j'aurais tendance à dire que nous, on accompagne finalement les personnes les plus mises au banc de la société avec les personnes les plus mises à mal par la société, c'est-à-dire justement les personnes en situation de handicap, sans emploi, sans travail ou en difficulté, en difficulté familiale, quoi.
Dans certains cas, on parle du secteur santé-travail social. Est-ce que vous pouvez faire un lien avec ce qu'on pense être la plupart du temps le secteur de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, la médecine conventionnelle? Est-ce qu'il y a un lien entre le secteur hospitalier qu'on connaît et le secteur du travail social?
De mon côté, j'aurais tendance à dire que, évidemment, qu'en fait, c'est étroitement lié, au sens où les politiques, par exemple, d'attaque sur l'aide médicale d'État, en fait, nous, les personnes qu'on accompagne, en sont souvent bénéficiaires. Et en réalité, du coup, quand on voit la caste de des hôpitaux publics, bah, en fait, c'est étroitement lié, quoi. On essaye de faire des économies partout où on peut. Enfin, l'État essaye de faire des économies partout où il peut. Et donc, du coup, en réalité, quand tu t'attaques à l'un de ces secteurs-là, tu t'attaques à l'autre. Après, nous, on n'est pas des agents des hôpitaux, même s'il y a des travailleurs sociaux dans le secteur de la santé. On a des travailleurs sociaux dans les centres médicaux. Et en réalité, tout ça, c'est attaqué. On le voit d'ailleurs, les centres de santé sont aussi mis à mal en ce moment avec le secteur social, sur des coupes budgétaires virulentes, avec des fermetures de centres de santé. Alors oui, on n'est pas moi, par exemple, en tant qu'éducatrice, je ne suis pas amenée à travailler dans un centre de santé. Et en même temps, parallèlement, bah, je vois que mes collègues de la santé sont en train de subir les mêmes attaques. Donc en fait, c'est étroitement lié, même si on n'est pas dans le quotidien. Et par contre, je pense que toi, tu as peut-être plus d'éléments aussi sur le lien entre médico-social et santé.
Oui, alors moi, je travaille pour le coup avec, dans des établissements avec des personnes handicapées. Donc il y a du soin associé, mais qui est forcément lié aussi au social, parce que c'est vraiment on est vraiment dans l'intimité des personnes, donc c'est quelque chose d'assez délicat à gérer. Ouais, pour rebondir, ouais, pour le social, en fait, actuellement, on essaie de tendre vers une société de plus en plus capitaliste, individualiste, et en fait, là où on le voit directement, c'est justement au niveau du social, plus c'est difficile à ce niveau-là, plus une société s'effondre quelque part.
Est-ce que, donc on va aller plus sur ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que c'est que de travailler dans le secteur d'aide aux personnes en situation de handicap, et qu'est-ce que c'est que de travailler au quotidien dans l'aide à l'enfance?
Alors, moi, de ce que j'en connais, en tout cas, dans ma pratique, c'est du handicap mental. Donc c'est d'abord de l'observation, de l'écoute, de la patience beaucoup, et du cas par cas. Donc par exemple, je suis souvent affaire à des personnes dites trisomiques, atteintes de trisomie, et donc on peut avoir des maladies un peu moins connues. Mais en fait, on a avant tout affaire à des personnes. Donc il y a le handicap, et il y a le caractère qui va avec, et l'histoire de vie. Et en fait, c'est un tout qu'il faut essayer de prendre en compte pour réussir à amener la personne vers un maximum d'autonomie et de pouvoir profiter de la vie du mieux possible.
Est-ce que donc dans ce secteur-là, où tu taffes avec des personnes en situation de handicap mental, tu travailles aussi avec les psychologues, avec les kinés, ce genre de trucs?
Oui, bien sûr. Oui, bah, avec les infirmiers, les psychomotriciennes, les personnes aussi qui travaillent aussi au centre d'accueil de jour, avec qui font des activités. Après tout dépend des établissements. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un des établissements où on faisait donc à la fois tout le travail quotidien avec les rituels, les petites choses comme ça qu'on met en place du matin au coucher, mais aussi on avait aussi l'occasion de travailler en activité avec eux la journée, de faire des sorties ou des choses un peu plus sympathiques, qui sortent un peu du foyer.
D'accord. Et on parle très peu des AESH. Est-ce que tu connais un peu ce monde-là? Est-ce que on peut en profiter pour en parler, pour les visibiliser?
Alors, j'ai parfois un peu de mal avec les logos. quand il dit AESH.
Ah, les éducateurs.
Oui.
D'enfants handicapés. Les accompagnants d'enfants handicapés. Non.
Dans le milieu scolaire.
Dans le milieu scolaire.
Oui, oui, oui. Alors, moi, à la base, je suis AMP et mon diplôme a évolué. Maintenant, c'est AES. Donc, accompagnement éducatif social. Donc, c'est un peu. Oui, oui. Le diplôme a évolué justement par rapport à ça. Personnellement, j'ai pas d'expérience au niveau de l'accompagnement au niveau scolaire des personnes handicapées. Donc, je pourrais pas trop vous en parler.
Moi, pour le peu que j'en connais, hein, mais historiquement, c'est quand même une revendication de professionnaliser ce métier-là, parce qu'en fait, historiquement, c'était plutôt des collègues qui étaient sur le même type de contrat que les surveillants scolaires, ce qui était ahurissant, puisqu'en réalité, c'est un accompagnement du quotidien, intense, et avec des contrats très précaires. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on regrette dans ce statut-là, c'est qu'en réalité, les moyens ne sont pas meilleurs, que les recrutements sont pas meilleurs au sens où il n'y a pas de formation vraiment conséquente et que aujourd'hui on le voit en fait, on veut une inclusion scolaire qui pourrait être tout à fait pertinente, hein, mais sans les moyens qui vont avec, et que ça c'est une vraie difficulté, parce qu'en fait on a énormément d'enseignants qui dénoncent non pas le fait d'avoir des enfants en situation de handicap dans leur classe, mais d'avoir des enfants en situation de handicap dans les classes où ils sont abandonnés, puisque sans accompagnement concret, quoi. Il n'y a pas du tout assez de professionnels pour accompagner ces enfants-là.
Et est-ce que, donc là on va parler de ton secteur à toi, est-ce que t'es amené à côtoyer le monde des AESH ? Comment ça se passe ?
Alors moi, je suis éducatrice en protection de l'enfance dans les Hauts-de-Seine. Du coup, je travaille avec des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance dans des structures d'accueil. Ces placements-là, en fait, c'est avec des familles qui sont en très grande difficulté. Et c'est là où je disais que le secteur social, malgré tout, aujourd'hui, il est pensé de façon très sociale et très personne mise au banc de la société. C'est-à-dire que, et je prendrai plus l'exemple du handicap qui est plus clair, c'est qu'aujourd'hui, dans le handicap, les structures sont en sous-effectif et il n'y en a pas assez. Et donc, du coup, il y a énormément de gens qui attendent pendant des années des places dans des structures d'accompagnement dans le handicap. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le service dit associatif, on va dire, on va avoir les personnes qui ont de la chance. On va avoir à domicile des personnes qui n'ont pas de chance et pas de moyens. Et ensuite, à côté de ça, on va avoir, c'est en train d'apparaître de tous les côtés, du travail social libéral, où les familles qui ont de l'argent peuvent se payer un Pascal le grand frère maison, quoi, ou un accompagnement du quotidien à domicile. Et donc, du coup, c'est là que nous, on devient de plus en plus à accompagner, entre guillemets, la misère. Et c'est ça qu'on dénonce, c'est qu'aujourd'hui, les services publics financent plus correctement, etc. Je reviens sur mon quotidien. Moi, je suis éducatrice, du coup, en protection de l'enfance en placement. Et donc, du coup, l'accompagnement que je fais, c'est du soir au matin, du lundi au dimanche, jour férié inclus. On est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. On accompagne les enfants sur leur accompagnement scolaire. On accompagne les enfants sur leur accompagnement administratif. On y viendra peut-être un moment ou un autre. Mais par exemple, nous, on est amené à accompagner des jeunes reconnus comme MNA, mineurs non accompagnés. Donc typiquement les jeunes de la gaieté lyrique là, qui, eux, revendiquent ce statut. Et donc du coup, nous, on est les éducateurs du quotidien, quoi. On gère tout de comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu vas à l'école. Et pour ça, bah, on n'a pas assez de sous, on est en galère. Et par exemple, les liens avec l'école, bah, évidemment, on est en lien avec les enseignants, on est en lien avec Pôle emploi quand les jeunes sont en recherche d'emploi, on est en lien avec la CAF, la Sécu. Enfin voilà, nous, les éducateurs dans le quotidien, en réalité, on est un peu partout, quoi. Ce qui nous fait beaucoup de liens et ce qui nous fait nous rendre compte à quel point tout ce avec quoi on est amené à travailler est aujourd'hui en peine et en souffrance dans le quotidien, quoi. Je connais pas un conseiller Pôle emploi qui va bien, je connais pas un enseignant qui va bien, je connais pas... Enfin, voilà. Mais en même temps, je connais que des gens qui relèvent la tête.
Donc, en fait, c'est un guichet multifonction, mais sans les moyens qui vont avec, quoi.
Voilà.
Bon résumé.
On connaît des gens qui relèvent la tête, on en connaît qui tombent aussi, quoi. Et malheureusement, c'est un peu... Enfin, je sais que, par exemple, notre secteur, c'est quand même le premier visé dans les risques psychosociaux, quoi. Psychologiquement, on prend beaucoup sur nous. Donc, c'est sûr que quand on prend conscience d'à quel point tout se délabre un peu et que finalement on commence à s'unir, à parler entre nous et à s'organiser pour lutter déjà. Quand on lutte, on n'est pas en train de subir et déjà c'est un grand pas en avant, je pense.
Tu voulais dire...
Non, c'est tout.
Est-ce que vous êtes uniquement dans le secteur public ou, comme tu l'as dit, il y a du privé dans le secteur social ?
Bah nous, par exemple, enfin tous les deux, je crois que d'ailleurs, on est issus du secteur privé, mais en réalité, nos associations sont financées par des fonds publics, quand c'est pas des entreprises, et ça c'est aussi en train d'apparaître beaucoup dans notre secteur. Mais on intervient, pour donner un peu un exemple, on intervient dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale, dans le milieu associatif. Et dans chacune de ces grandes branches, on intervient dans tous les champs de la société.
Mais donc du coup, et malgré tout ça, vous n'êtes pas catégorisé comme travailleur du service public, comme fonctionnaire. C'est quoi le statut ?
Privé. Nous, on est dans le secteur privé. On a des collègues qui sont dans le public. Mmh. Voilà.
Par exemple, ceux qui sont dans le public, ils ont quel statut ?
Fonctionnaires.
Ils sont fonctionnaires. Et quelles sont les différences entre ceux qui sont dans le secteur public et ceux qui sont dans le secteur privé ? Est-ce que, par exemple, ceux du secteur privé, entre guillemets, ils sont logés. Est-ce qu'ils ont de meilleurs moyens ? Est-ce que c'est vraiment tout ? Vu ton sourire, je pense que non. Vas-y, racontez-nous.
Je sais pas, on part sur l'histoire de convention collective là.
Non.
Typiquement, la fonction publique a dernièrement connu des réformes de la fonction publique sur le temps de travail, sur les méthodes de travail, etc. J'irai pas sur ce terrain-là parce que je le maîtrise beaucoup moins. Mais on sait très bien qu'en fait aujourd'hui, on présente les fonctionnaires comme étant des gens richissimes qui font rien de leur journée, etc. Bon, pour les gens qui côtoient un tout petit peu les services publics, on sait que c'est pas le cas, quoi. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de moyens. Les salaires, je ne crois pas qu'ils soient incroyablement supérieurs. Il y a peut-être moyen que ce soit un peu mieux parce que du coup, c'est l'État qui dirige les salaires et pas nos patrons, quoi. Mais bon, je ne crois pas savoir que l'État soit quelqu'un de très partageur. Et les conditions de travail, enfin moi, je veux dire, c'est déplorable. Aujourd'hui, à Paris, à l'aide sociale à l'enfance, on a connu des services qui étaient entièrement en arrêt maladie, tant la souffrance au travail est importante. Je veux dire, c'est l'ensemble du secteur social, ce que disait Joe, c'est un truc assez... c'est prégnant, la souffrance et la violence. Je crois qu'on fait partie aussi des secteurs les plus à risque sur les accidents au travail. Alors que, on est aux côtés du BTP et des salariés qui usent encore plus de leur corps que nous, quoi. Et c'est un côté hyper flippant. Et du coup, non, le secteur social, le secteur privé, public-privé, pour moi, il n'y a pas tant de différence. Et par ailleurs, justement, cette fameuse réforme de la fonction publique, là, au niveau du temps de travail, etc., nous, on est en train de se prendre une offensive en ce moment. Donc le MEDEF du secteur social, qui s'appelle Nexem, qui est une organisation patronale qui a regroupé un peu toutes nos directions, qui aiment à se présenter comme un syndicat patronal, par ailleurs, bah justement, bah ils défendent leurs droits et ils attaquent les nôtres. Et donc, la prochaine convention collective unique, là, ils essayent de nous faire passer quelque chose où ils pourraient nous faire travailler jusqu'à 48 heures par semaine, 12 heures par jour, nous faire nous reposer que 9 heures entre, la fin de prise de poste et la nouvelle prise de poste. Et le dernier truc, ouais, ça c'est nous et en vrai nos patrons jusque-là ils nous l'avaient autorisé. Enfin, notre convention collective prévoyait 18 jours de repos supplémentaires. Pourquoi ces jours-là ? En réalité, c'est pour nous éviter le burn-out. Hein. On peut pas le nier. Enfin, je veux dire, pourquoi des patrons nous offriraient plus de jours de congé ? Bon, bah voilà, là ils sont en train de l'attaquer et au lieu de 18, ils nous en proposent 6. Voilà. Ouais, cool. Super la convention collective pour. Ouais. Attirer de nouveaux professionnels. Oui, et je mets des gros guillemets autour de ça. Je vois pas comment, en fait, on supprime des postes, on supprime des fonds, on supprime des droits. À quel moment, en fait, on va pouvoir se permettre de recruter de nouveaux collègues quand, en plus, on ferme maintenant même les écoles sont en train de fermer.
Oui, justement, j'allais me poser cette question sur la formation. Quelle est la formation dans le secteur du travail social ? Vous êtes, comment vous êtes formé ? Est-ce que ça passe par une école particulière, par les universités ? Parce que souvent, la première attaque, c'est sur les lieux de formation.
Vas-y, bah, je t'en prie.
De toute façon, nous, on est sur de la formation privée, entre guillemets. Mmh. C'est pareil. Bon, bah, c'est de l'associatif, financé par des fonds publics, mais du coup, ça reste du privé. Nous, on a des centres de formation un peu partout en France. Qui va de niveau bac jusqu'au niveau master, quoi, en gros. Il y a une nouvelle offensive, d'ailleurs, puisqu'il y a une réforme des diplômes qui va passer et qui devrait être mise en place en septembre 2026. Elle est encore en cours de création, mais quoi qu'il arrive, on est déjà en train de l'annoncer, parce que ce serait... typiquement, Joe et moi, on n'a pas du tout le même... on n'a pas du tout le même diplôme, on n'a pas du tout les mêmes fonctions, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Et en fait, ils sont en train d'essayer de créer un travailleur social unique avec presque une catégorie grand chef, moyen chef, petit chef, et en fonction de...
N+, quoi.
Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas comme ça que c'est présenté. Hein. C'est présenté comme l'éducateur spécialisé y fait. Et en fait, tu te rends bien compte que dans ces tâches, on fait plus ce que je fais aujourd'hui. On fera chef de Joe, quoi. Chef des AMP. Enfin, c'est un peu ça, le concept là, de la réforme des diplômes en faisant des travailleurs sociaux uniques. Et donc, ces centres de formation-là, c'est du privé. Donc, bon, non pas que l'État dirige correctement son argent et que ça se pète jamais la tête dans le mur. Aujourd'hui, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de l'ETSUP. C'est un centre de formation qui, aujourd'hui, loue des locaux à Montparnasse, quand même, pour donner un peu une idée du milieu. Et ben, en fait, ils sont en liquidation judiciaire sur des travaux qui n'ont pas l'air clairs du tout. Ça fait des années qu'ils doivent emménager dans des locaux à Arcueil. Ce soir, il y a un rassemblement devant ce bâtiment-là pour justement montrer qu'en fait, aujourd'hui, c'est une carcasse, quoi. Le chantier qui date d'il y a plusieurs années est une carcasse. Je crois que ça s'est effondré au moment du Covid et ça ne s'est pas amélioré. Enfin, je veux dire, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre un centre de formation, déjà tout court, mais encore moins un centre de formation du secteur social, alors qu'on est en peine pour avoir des travailleurs sociaux diplômés, formés, qui subissent pas leur métier parce que en tout cas ils sont soutenus par quelque chose qu'ils ont appris en école, quoi.
Je vais revenir 30 secondes sur le temps de travail. Donc ça pourrait aller jusqu'à 48 heures, 12 heures par jour. Je croyais qu'on était le maximum légal, c'était 35 heures. Comment c'est possible qu'on passe de 35 à 48 là ?
Oui, jusqu'à maintenant, c'était 35 heures, mais c'est quelque chose qu'ils veulent changer, en fait. On est dans une logique où on voit le social comme n'importe quel métier, comme des métiers du privé à titre lucratif, quoi. On doit être rentable. Et en fait, ça ne peut pas se calculer comme ça, normalement. Et puis même, oui, après c'est un autre débat, mais... Dépasser 35 heures, enfin, je pense pas que ça, ça aide à être bien dans son travail.
Et sur le plan purement légal, en fait, c'est la même offensive que pour les cheminots et pour l'ensemble du secteur privé où, bah, merci Macron, quoi. Hein, c'est la loi El Khomri, c'est la loi Macron, c'est l'offensive sur le droit du travail. Bon, bah, maintenant, en fait, je sais pas à quoi il sert encore ce droit du travail, puisque tout le monde peut en faire n'importe quoi tant que c'est validé par le patronat, quoi. Et nous, aujourd'hui, notre patronat, il s'organise de façon à ce que c'est l'annualisation du temps de travail, quoi. Donc, ils vont nous dire, mais non, mais c'est pas toutes les semaines. Et puis, en fait, ce sera exceptionnel. Mais en réalité, c'est pour compenser les absences de nos collègues. C'est pour compenser les moments où, bah, typiquement, sur un week-end, il n'y a pas de collègue travailleur social. Bon, bah, écoute, Jérémy, tu vas y aller cette fois, c'est ton tour. Enfin, ça va être ça. Et en fait, ils vont te dire, mais pas d'inquiétude, hein, la semaine suivante, tu travailleras 15 heures. Il n'y a pas une seule semaine où on ne fait pas des heures sup. Pas une seule semaine. Qui ne sont pas payées, qui ne sont pas récupérées. Hein. Moi, je ne vois pas comment, au regard de notre charge de travail, on peut récupérer ou être payé sur nos heures supplémentaires.
Donc, du coup, ça nous mène à la rémunération. Quelle est la rémunération d'un travailleur social ?
Mal payé.
La moyenne.
Voilà, je suis pas assez bon, moi, sur les...
Le problème, c'est qu'on a plusieurs conventions collectives, etc. J'aurais tendance à dire...
Un peu rentrer dans les détails de ces conventions
En fait, déjà, dans mes souvenirs, pour donner un exemple, là où on a une convention collective la plus grosse, c'est la 66, du 15 mars 1966. Et cette convention collective, elle prévoyait jusque-là... Alors, il y a eu des petites évolutions. On est vraiment sur du tout petit. À une époque, elle était aux alentours de 1 490 € net à l'embauche, au moment du diplôme. Quand aujourd'hui, le SMIC est plus si loin que ça, hein, du 1 490. Et alors que t'es, en l'occurrence, pour ce diplôme-là, t'étais à Bac plus 3. Donc après, il faut envisager le reste de l'évolution. Nous, en plus, maintenant, on s'est battu, on l'a eu, pas tout le monde malheureusement, et on continue de se battre pour ça, la fameuse prime Ségur. Donc en fait, on touche 183 € net de plus, et en réalité, on aurait tous la corde autour du cou au 5 du mois financièrement si on n'avait pas cette prime Ségur. Parce que 183 €, en fait, c'est le beurre dans les pâtes, mais en réalité, c'est même les pâtes. Hein.
Et puis, ils peuvent la faire sauter à tout moment.
Comment ça ?
Bah, c'est une prime, c'est pas du salaire, quoi.
C'est pas écrit dans le contrat de travail, c'est 183 € supplémentaires, mais fixe.
Non.
Et puis, il faut limite même se bagarrer pour l'obtenir.
Il y a même déjà des départements qui ont essayé de dire on va pas la payer. Alors du coup, là, en ce moment, on est pas mal sur des bagarres judiciaires entre les départements, l'État, les associations sur qui est-ce qui paye, comment, pourquoi, etc. Il y a 3 départements, je crois, qui se sont fait retoquer justement à ce sujet. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut le lier. Le 1er avril, on se met en grève. Il y a 30 000 personnes dans la rue partout en France, dont Nantes et Toulouse. Je pense qu'il faut les nommer parce qu'ils sont 2 et 3 000 à ce moment-là en manifestation, parce qu'ils font face aussi à un plan de licenciement dans les conseils départementaux, liés justement aux coupes budgétaires du gouvernement. Et en fait, dans cette... Alors, j'ai plus les dates précises, mais en réalité, autour de cette période de grève, le gouvernement dit « Bon, OK, on va financer quand même un petit peu la prime Ségur, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire. » C'est la démonstration, en fait, que se mettre en grève... ça met quand même un peu la pression au nombre qu'on est. 30 000, c'est très correct, mais on peut mettre plus de collègues dans la rue. Imaginez si on arrivait à mettre plus de collègues dans la rue, ce qu'on arriverait à gagner.
Ah ouais, puis moi je rajoutais que la prime Ségur, c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on est, on est allé arracher en fait finalement. Et même une fois que ça a été annoncé, derrière, le temps et la bagarre qu'il a fallu pour que tout le monde la touche. Et je crois qu'il y a encore des établissements et des endroits où tout le monde ne la touche pas encore. Donc, il faut qu'on soit plus mobilisé, plus fort.
Il est 13h et donc là on me dit il faut mettre la pause musicale. Juste après on va parler des luttes, on parlait du 1er avril où 30 000 salariés étaient mobilisés et toute cette semaine vous serez mobilisés dans la rue et donc on va en parler juste après. Okay. On va faire un petit décor.
Toujours le même qui morfe cousin. Y'a pas de justice. Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Tu sais ici c'est la France, terre de Providence. De Picardie en Provence, il y avait tout en abondance. Certains n'ont que les miettes et d'autres tout le gâteau. Certains finissent au bon maître et d'autres feu la jour et gros. Toi le remind et la gazette qui peine avec les mots. Si tu ne coupes pas la tête, tu pourrais finir KO. Alors si tu vas au combat et que tu as la foi, tu ne reculeras pas, mais tu te diras. Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Dans le monde du travail,
quand on a du travail,
c'est le merguez la pagaille.
Tu peux dire le why.
Ouvrier ou technicien, secrétaire ou gardien, tout le monde le sait bien, ne s'étonne plus de rien. Ragamuffine, syndicaliste, tu es inscrit sur une liste, je dirais même sur la blacklist.
Je préfère la red list, moi, hein, attendez.
En tout cas, t'es repéré et tu es catalogué, un activiste dangereux pour la société. Coupable, tu seras jugé, tu seras condamné, et tu resteras au placard à te demander.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. C'est normal. 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 C'est normal.
Marseille sont plutôt appréciés. Ici ce n'est pas pareil, tout le monde le reconnaît. Quand l'un de nous crie, forcé de se réveiller. Quand le vieux port s'éveille, on dit bonjour au monde entier. On préfère être à fond avec le porteur de ballon. On vit avec passion, sans cacher nos émotions, sans relâcher notre attention. L'arbitre empêche l'action en nous mettant la pression. Alors on pose la question.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Vous êtes de retour dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30. Et on est avec Laura et Joe, travailleurs du secteur social, qui sont là pour nous parler de leur secteur et des mobilisations qui sont dans ce secteur toute la semaine. Alors, juste avant de revenir sur les précédentes mobilisations, celle qui a eu lieu en janvier, celle qui a eu lieu le 1er avril, ça, on en a déjà parlé, et surtout la lutte, ce qui reste de la lutte Ségur, entre guillemets, qui a permis d'avoir 683 euros, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire un mot des mineurs non accompagnés et notamment des enfants de la gaieté lyrique?
Oui, alors du coup sur sur cette question-là, alors je pense que c'est ce serait intéressant à l'occasion de pouvoir faire le lien de nouveau avec eux. Je sais que on vous y a croisé régulièrement parce que du coup moi c'est vrai que j'ai pas vocation à parler au nom du collectif. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que en tant qu'éducatrice de protection de l'enfance, c'est vrai que souvent on nous dit le statut de MNA, ça protège les enfants. Le statut de MNA, il a été mis en place par des gouvernements qui espéraient avoir moins d'enfants migrants dans leur rang. Jusque-là, avant que le statut de d'abord MIE, puis ensuite MNA, donc mineur isolé étranger, puis mineur non accompagné, avant qu'il n'existe, c'était des enfants à protéger qu'on mettait dans des structures d'accueil, qu'on accompagnait comme n'importe quel enfant à mettre sous protection. Et que le statut de MNA, ça a permis au gouvernement de faire des accompagnements moins chers et de chercher à négocier, entre guillemets, l'âge des jeunes. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les MNA du parc de Belleville, enfin le collectif des mineurs du parc de Belleville.
Comment ils vont ?
Bah, ils relèvent la tête, ils gardent la tête haute. Franchement, ils sont d'une dignité incroyable parce que justement, donc pour rappel, c'est un collectif de jeunes qui demande le statut de mineur non accompagné, dont l'État ne reconnaît pas le statut. Et en fait, par ailleurs, là où on devrait envisager une présomption de minorité et accompagner ces jeunes tant qu'on n'a pas déterminé s'ils sont mineurs ou majeurs, bah en fait, on part du principe qu'ils sont mineurs. Aujourd'hui, l'État français ne le fait pas et les laisse à la rue. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs dizaines de mois que c'est des jeunes qui vivent, qui ont longuement vécu sous des ponts, sous des tentes. Alors déjà que pour des adultes, c'est indécent et inadmissible. Il faut imaginer ça pour des enfants, quoi, qui ont déjà connu la traversée de plusieurs pays avant d'arriver en France. Comment ils vont ? Bah, justement, je disais, moi, ça fait là, je les ai pas croisés ces derniers temps, mais ils se battent contre des OQTF, ils se battent contre un État qui les reconnaît pas, qui manipule, qui enfin, je veux dire, l'évacuation de la gaieté lyrique, quand on voit comment les médias ont traité la question en parlant d'étrangers qui occupaient un espace culturel, on parle de mineurs qui se mettent à l'abri, qui ont besoin d'un toit parce qu'aujourd'hui, les éducateurs de protection de l'enfance n'ont pas le droit et n'ont pas eu la consigne et, de travailler et de les accompagner. Et que je n'irai pas dénoncer des associations, mais il y a des associations qui ont accepté, aux côtés de l'État, d'aller déterminer si tel ou tel enfant, il est majeur ou il est mineur. J'ai tendance à penser qu'il faut protéger de toute façon, quel que soit l'âge, en fait. Il faut protéger les gens qui ont besoin d'être protégés.
D'ailleurs, un petit mot sur ces associations en délégation de services publics et privés. Est-ce qu'il y en a qui sont pires que d'autres ? Comment ça se passe ?
Oui, oui, sûrement. Moi, j'ai pas énormément de. Au niveau de ma pratique personnelle, j'ai pas beaucoup de comparaisons, mais effectivement, là où je suis, en tout cas, oui, oui, c'est. Il y a toujours à batailler, quoi. Et les conditions se dégradent pas mal.
Avant de passer à l'agenda de la semaine, dans le secteur du travail social, des migrants ont occupé l'hôpital de La Fontaine et là, se sont déplacés sur l'université Paris 8. D'ailleurs, on salue les étudiants et le personnel de la fac qui tente de s'occuper d'eux. Ce week-end, la fac a été fermée unilatéralement par la direction. Est-ce que tu sais s'il y a parmi eux des mineurs non accompagnés ? Est-ce que tu as eu des échos de cette meuble-là ?
Nous, on a eu des échos. Moi, j'y ai pas été, donc je peux pas parler là de comment ça se passe et de ce qui s'y passe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on les avait rencontrés à l'époque où ils occupaient les urgences de l'hôpital La Fontaine.
Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de cette période-là ?
En réalité, c'est la même bagarre que les mineurs du parc de Belleville, sauf qu'elles sont pas mineures, sauf que c'est des mères avec des enfants, et c'est la démonstration du racisme de l'État français. Enfin, c'est et en même temps aussi de l'austérité de nos budgets, parce que c'est des gens qui sont mis à la rue, qui sont pas protégés. En l'occurrence, là, on parle de bébés qui eux-mêmes ne pouvaient pas bénéficier d'hébergement. Donc les mères et leurs enfants étaient allés se mettre à l'abri à l'hôpital. Du coup, en fait, petit à petit, l'hôpital ou l'État, je sais plus comment ça s'est passé, les a gentiment poussés vers l'extérieur. Résultat Paris 8, tout ça, mais je sais pas s'il y a des MNA ou pas à l'intérieur de la fac. Ce que je sais, c'est que l'État français aujourd'hui rend difficile le fait d'avoir un titre de séjour, rend difficile le fait d'être reconnu comme MNA, rend difficile le fait d'être soutenu par les services sociaux.
Justement, pour les MNA, comment ça se fait qu'un nourrisson n'est pas considéré comme MNA, et donc du coup, s'il y a la mère... voilà.
Bah, il n'est pas MNA puisque justement il y a sa mère.
Oui, mais c'est un mineur en danger.
Après, nous, on ne va pas théoriser le fait de placer des enfants parce qu'il y a des difficultés
non,
sociales.
Je parle pas de, pas de placement, mais de protection de la mère et de l'enfant.
Il y a nécessairement, je pense, des travailleurs sociaux quelque part, mais qui sont pieds et mains liés, en fait. On y revient. En fait, nous, moi, je veux dire la protection de l'enfance. Pour aller sur un sujet que je connais. Aujourd'hui, à 21 ans, un contrat jeune majeur, quand il prend fin, s'il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'hébergement. Et les directions et le département disent « Ciao, c'est dans la rue ». Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait eu la terrible statistique là, de un jeune sur quatre qui est passé à l'aide sociale à l'enfance finit à la rue, connaît un parcours d'errance à la rue. À partir du moment où on sait que quelqu'un qui parfois a été pris en charge depuis la naissance par l'aide sociale à l'enfance finit à la rue, comment imaginer qu'une mère sans titre de séjour, en difficulté de logement, etc., etc., puisse voir sa situation évoluer quand on voit comment les travailleurs sociaux aujourd'hui ont... nous, on fait avec des bouts de ficelle, des bouts de sparadrap, on colle comme on peut, on essaye que ça tienne. Et en général, en plus, ça nous tombe dessus. Et moi, là, c'est pas pour nous déresponsabiliser, parce que justement, la seule responsabilité qu'on a maintenant, c'est de réagir collectivement et individuellement en se mettant en grève et en réagissant par la lutte.
Donc, du coup, ça nous mène au calendrier de la semaine. Tu le disais, ce soir, il y a donc un rassemblement devant l'ETSUP qui se trouve à quel numéro de la rue du 19 mars 62 à Arcueil?
C'est une toute petite rue, c'est du 12-18 rue du 19 mars 62.
C'est Arcueil-la-Place.
Tout à fait.
Ouais, sur le RER B à Arcueil-la-Place donc. Et donc pour ce rassemblement-là, c'est par rapport au bâtiment qui est en non-construction hein, et qui est censé être, ce bâtiment-là est censé être un lieu de formation, l'un de vos lieux de formation, et que là, du coup, il n'y est pas. Mais vous appelez aussi à la mobilisation dans le secteur public des fonctionnaires demain à 13h. De mémoire, c'est invalide.
C'est Bercy demain.
C'est Bercy, ouais, c'est l'autre, pardon. C'est l'autre que je me disais. Donc c'est à Bercy, devant le Chambertin, au 38 boulevard de Bercy. Alors pourquoi faire la jonction avec les fonctionnaires?
Pourquoi faire la jonction avec les fonctionnaires? Parce que ça paraît un peu logique. C'est du travail social.
Pour certains secteurs, ils font bien la délimitation. Donc, pour nous, ça nous paraît logique, mais pour d'autres, non. Donc, si on avait quelque chose à leur dire, à ceux qui font les sectaires, pourquoi il faut faire la jonction?
Parce que plus on est nombreux, plus on est visible, plus on est nombreux, plus on se soutient, et plus on est armé pour la lutte. On peut se rencontrer, discuter et se soutenir.
Et aujourd'hui, la politique austéritaire, qu'elle soit dans la fonction publique ou dans le privé, c'est la même. Entre les et vraiment hein, pour... Alors déjà, quand je parlais de mon boulot, On le voit, en fait, nous, on est face à des collègues qui sont désœuvrés et dans la fonction publique et dans le privé. Entre les agents de Pôle emploi, les enseignants en galère et nous, et la santé, on fait nécessairement les liens. Et en fait, la fonction publique, aujourd'hui, est mise à mal autant que le secteur social. Ça, c'est le premier truc. Mais en réalité, même dans le privé pur et dur, quoi. Enfin, je veux dire, quand la métallurgie, on applaudit de demain en se disant « Ah bah super, on a eu un repreneur, du coup, on va fabriquer des bombes. » Moi, je sais pas, mais... En fait, c'est la même chose que nous, quand on nous dit, et je vais faire la jonction avec la manif du 15 mai, quand en fait, derrière, j'ai le patronat du social qui dit « il faut qu'on se batte pour pouvoir sauver nos conditions de travail », enfin, je veux dire, c'est vous qui les avez cassées quand même, les conditions de travail, les conditions d'accompagnement. Et c'est un peu ce truc-là, c'est dire tous ensemble, il faut qu'en fait on fasse face à nos dirigeants et à ceux qui passent leur vie à nous couper nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos conditions d'accompagnement, quoi.
Alors, dans votre manifestation, effectivement, vous êtes pour effectivement faire front, mais il y a quand même un secteur que vous ne souhaitez pas voir se joindre à vous, c'est les 400 000. J'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Qui c'est les 400 000 ?
Je pense que tu en parleras sûrement un peu mieux que moi.
Mais en tant que protection de l'enfance ?
La fameuse CCU. Ouais.
Alors déjà, les 400 000, c'est quoi ? C'est déjà juste le chiffre, en fait. C'est 400 000 enfants placés en France. Notre patronat, en fait, a eu le culot de s'approprier ce chiffre pour revendiquer des meilleures conditions d'accompagnement pour ces enfants-là. Alors, nous, on est d'accord hein, avec la revendication de dire plus de moyens et de meilleures conditions d'accompagnement. Le problème, c'est que c'est les mêmes qui sont organisés dans Nexem, qui passent la convention collective unique. Donc, moi, je veux bien qu'on se batte pour des meilleures conditions d'accompagnement, mais en même temps, mettre des travailleurs sociaux éreintés par le travail, et psychologiquement et physiquement, parce qu'ils n'ont pas pu se reposer leur tête, c'est déjà un peu le comble. Mais en plus, moi, je trouve que parler au nom de ces enfants placés... Quand c'est nos directions qui nous disent « Ah, il a 21 ans, il faut le mettre à la rue ». Enfin voilà, c'est ça qu'on dénonce dans les 400 000. C'est pas le fait des revendications. Et évidemment, si nos collègues font le choix d'aller à cette mobilisation-là parce qu'ils pensent qu'ils seront plus entendus par les services publics, qu'ils y aillent. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que, par contre, une demi-heure plus tard, à 500 mètres du rassemblement des patrons, eh ben, en fait, on sera là, prêt à partir en manifestation, des Invalides à l'actuel centre de formation de l'aide sup qui est à Montparnasse.
C'est le 16 mai.
C'est le 15. Pour dénoncer et la blague patronale que c'est et nos conditions de vie, de travail, d'accompagnement qui sont inadmissibles, en fait. C'est la faute de ces directions. Et d'ailleurs, je fais la jonction. Dans les 400 000, il y a la CNAPE. Qui est en fait un rassemblement d'associations de protection de l'enfance. Dans cette association, on a déjà pu relever des directions qui ont réprimé des collègues, qui n'ont pas défendu la prévention spécialisée dans certains départements. La prévention spécialisée, c'est les éducateurs de rue dans les quartiers populaires. À côté de ça, on a l'APF, l'Association des paralysés de France, qui, pareil, signe pour participer au 15 mai à cette manifestation-là, et qui, en parallèle, annonce en septembre le licenciement en visio de 450 personnes pour le mois de mai. La caricature, enfin...
C'est de la juste... grande hypocrisie, quoi.
C'est pas envisageable de pouvoir défiler à côté de ces gens-là.
Donc, justement, pour s'occuper de ces 400 000 personnes en grand besoin, en grand danger même, vous êtes combien ? Le secteur du travail social, ça représente combien de milliers de personnes ?
Difficile à chiffrer. Ce qu'on sait sur certaines statistiques, c'est qu'en termes de diplômes, et on a beaucoup de collègues pas diplômés, pour ça il faut ouvrir des centres de formation et payer les formations, c'est plus d'un million de salariés diplômés en France. Et encore une fois, on n'est pas sur tous les collègues qui ne sont pas diplômés.
Et malgré ces 1 million de personnes diplômées ou non diplômées, il n'y a tellement pas de moyens qu'il y a tellement...
aujourd'hui, l'État français s'attaque, l'État français, par le biais des départements, s'attaque à l'ensemble de nos accompagnements. Comment on peut accompagner correctement quand on a des personnes qui n'arrivent pas à avoir l'AME ? Comment on fait quand ils n'ont pas de titre de séjour, quand ils n'ont pas de travail, quand ils sont en difficulté pour avoir un logement, et que même nous, on est en permanence en sureffectif. En suractivité parce qu'on est en sous-effectif. Voilà, c'est ça la vraie difficulté. Et dans les 1 million, a priori, ça se trouve, tout le monde n'est pas en poste parce qu'on est en arrêt maladie, parce qu'on est éreinté par le travail, parce qu'on n'en peut plus de ce secteur qui va mal, en fait. Les gens qui quittent le secteur social, ils ne le quittent pas parce qu'ils n'aiment plus le métier, mais parce qu'ils ne peuvent plus le faire dans ces conditions-là.
Donc, alors, l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Est-ce qu'il y a un début d'interpro à petite échelle avec, avec le secteur hospitalier qui est dans le même état ? Quelles sont les convergences de lutte, les convergences professionnelles qu'il y a, est-ce qu'il y en a qui travaillent avec vous, qui se disent on est dans le même état, il faut se mobiliser ensemble pour tenter de gagner quelque chose ? Par exemple, le Ségur. C'était une grande lutte du secteur de la santé, qu'on connaît entre guillemets, c'est-à-dire le secteur hospitalier, etc. Est-ce qu'ils se sont dit, il faut que le secteur social l'ait ? Est-ce que les AES, il faut qu'on aide les AESH ? Comment ça s'est passé ?
Nous, sur le secteur social, aujourd'hui, les liens avec la santé ne sont pas nécessairement les plus fluides, mais parce que... On n'a pas nécessairement eu l'occasion. Aujourd'hui, le 15 mars, le 15 mai, deux mois de retard, le 15 mai, on est en lien en fait, avec les missions locales, avec France Travail, avec les étudiants aussi, pas nécessairement que les étudiants en travail social, mais aussi les étudiants tout court qui se mobilisent contre les coupes budgétaires dans leurs universités. Et en fait, nous, justement, ce qu'on défend dans le secteur social, c'est de dire... venez, on se rassemble. Le secteur social, on est beaucoup des équipes 10 par 10, 15 par 15, et encore, ça, c'est les grosses équipes. Il y en a énormément qui luttent toutes seules dans leur coin, et justement, en fait, nous, on est des militants de la commission de mobilisation travail social Île-de-France. On a fondé, créé, construit ce collectif qui n'a d'autre existence que nous-mêmes pour justement regrouper toutes ces luttes-là.
Justement, tu peux nous en parler de cette commission ?
Alors, c'est issu du mouvement Loi Travail en 2016. D'abord, la commission Action Travail Social de la Nuit Debout. On se construit petit à petit. Et puis, à l'issue du mouvement Loi Travail, on se dit... il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à aller chercher les collègues qui ont l'impression d'être tout seuls à lutter. Et donc, du coup, on est allé de piquet de grève en piquet de grève, de manif en manif, d'AG en AG, en disant « Mais venez, on se réunit tous ensemble. Il faut se syndiquer, mais il faut aussi qu'on arrive à aller au-delà des syndicats. Il faut qu'on enclenche des dates de mobilisation, par exemple le 15 mai, le 1er avril, le 7 décembre 2021. Tout ça, c'est issu des collectifs et d'une volonté de regrouper nationalement nos collègues qui luttent. Voilà, le 7 décembre 2021, le 1er avril, le 15 mai, c'est des dates qu'on a décidées nationalement entre collectifs qui sont composés essentiellement de gens syndiqués d'ailleurs.
Mais pas que.
Et pas que. Et c'est ça en fait toute la force de ce collectif, c'est que nous, on a dit, il faut qu'on regroupe partout où on peut, dans le social. Dans le médico-social, on a noué des liens avec les missions locales et France Travail, où nous, ce qu'on défend, c'est qu'en fait, si tu cherches un travail et que tu accompagnes des gens qui cherchent un travail, en fait, tu es dans le social. Et donc, on tape tous ensemble du poing sur la table. C'est ça qu'on défend. Et que s'il faut qu'on aille faire le lien avec ArcelorMittal, qui est en train de licencier des gens, on le fera. Parce qu'en réalité, supprimer 500 postes à l'APF ou supprimer autant de postes à ArcelorMittal, ça revient au même. C'est mettre des gens à la rue, à la misère, à la précarité.
Avant de faire le lien avec la culture, s'il y en a, est-ce que tu as des retours justement de la mobilisation des travailleurs de Pôle emploi ?
Ils sont en grève le 15 mai, ils ont été en grève le 1er avril. Ils ont été. Je sais qu'au niveau de Pôle emploi, il y a une mobilisation, une volonté de faire ensemble avec nous. J'ai pas les chiffres en tant que tels, mais en réalité, aujourd'hui, je pense qu'on a tout à y gagner de taper ensemble du poing sur la table, parce que justement, on n'est pas à se dire « Ah, il y a 500 des uns et 500 des autres », mais de se dire « Ah là là, dis donc, il y a 1000 », alors bon, 1000, là, j'ai pas pris le bon chiffre, mais il y a 1000 agents de France Travail, enfin, il y a 1000 salariés de France Travail et du social qui se battent ensemble, tout de suite, bah, ça change tout. Et c'est ça qu'en fait, on défend pour le 15 mai. Il y avait déjà un appel à la grève d'émissions locales, et nous, ce qu'on a dit, c'est, eh ben là, ce sera pas, il y a X d'émissions locales, X du social, X étudiants et X de la culture, mais de dire, il y a X travailleurs qui se battent contre les coupes budgétaires.
Est-ce que il y a des travailleurs de Pôle emploi qui vont vous rejoindre le 15 mai à 13h, place des Invalides?
Oui.
Oui. Voilà. D'accord. Et donc, on parlait de la culture qui a tenté une mobilisation. Enfin, non, c'était plutôt les étudiants qui ont rejoint la culture. Est-ce que la culture, des travailleurs de la culture en mobilisation ont fait le lien avec vous, vous rejoignent lors des AG? Il y aura une AG hein, à la Bourse du Travail de Paris à 10h30, 3 rue du Château d'Eau. Est-ce qu'il y a des travailleurs de la culture qui vous rejoignent, des étudiants? Comment ça se passe la jonction? Est-ce que vous faites des allers-retours en trajet? Comment ça se passe concrètement une convergence de lutte?
Il y a des liens qui sont faits. Alors, avec les étudiants, ça, c'est en cours. Par exemple, notre appel à la grève du 15 mai est signé par l'UNEF nationale et l'UNEF Nanterre, par exemple, pour donner un exemple. La culture en lutte est en lien avec nous. On va régulièrement à leurs AG et régulièrement, ils nous envoient des copains aussi, des copains-copines pour venir nous parler de comment est-ce qu'on peut faire le lien. On verra si le 15 mai, ils seront là. Mais en tout cas, tout le monde y est évidemment le bienvenu. Et vraiment, c'est ça l'objectif.
Alors, du coup, on va faire un petit rappel des dates. Je l'ai fait ou vous faites, comme vous voulez. On se partage le taf.
Sinon, on le fait chacun notre tour. Comme ça, voilà. Tout le monde aura bien entendu les dates. Bah déjà, donc aujourd'hui, le 12 mai, contre la fermeture de l'Aide-Sup, à 17h, rue du 19 mars 1962, à Arcueil.
Au 12-17. 12-17, oui, du 19 mars 62. Métro Arcueil, enfin RER, Arcueil la place sur le RERB, pour ceux qui veulent vous rejoindre. Oui. Le 13 mai, manifestation du secteur public, de la fonction publique. Mmh. Et votre rendez-vous est à 13h devant le Chambertin, au 38 boulevard de Bercy, dans le 12e arrondissement, métro Bercy.
Et le 15 mai, évidemment, du coup, il faut en parler particulièrement autour de vous. On ira participer au rassemblement de la petite enfance qui aura lieu d'abord le matin, puis ensuite on ira en assemblée générale à 10h30 à la Bourse du Travail de Paris. Et évidemment, ensuite, nous irons participer à la manifestation du secteur social, médico-social et des missions locales à 13h, place des Invalides, rond-point des Bleuets, et on espère que les collègues qui participent au rassemblement des 400 000 prendront conscience que c'est pas avec les patrons qu'il faut aller, mais avec nous.
Et la Bourse du Travail, c'est 3 rue du Château d'Eau,
métro
à 10h30.
Métro République.
Pour le 15 mai, et voilà, après 13h.
Et potentiellement, le 16 mai, le lendemain, contre la fermeture de l'Aide-Sup, 10h à Montparnasse.
Ça reste à confirmer pour l'instant. On attend d'avoir les retours des étudiants pour savoir ce qui se passe.
D'accord. Eh ben, merci à vous deux. Merci à vous de nous suivre tous les jours, chaque semaine. Et on se retrouve demain en direct aussi avec Alain de Monoprix qui va nous parler de ses problèmes avec son patron Monoprix.
Ah oui.
À demain.
Sympa.
vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.